Voilà, oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Che fai, gradisci?
Ma stato forte, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Papa fa che dici?
Bonjour à toutes et à tous, les cinéphiles du vendredi et les autres aussi. Bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec passion. À l'affiche aujourd'hui, l'actualité du monde et l'acuité de l'intime transcendée par le regard cinématographique. Pour le plus grand plaisir de Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Avec nous également dans le studio, Cathy. Salut Cathy.
Salut Sophie, salut tout le monde.
Olivier, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et René.
Et bonjour à tous.
Salut. On est là pour parler de pas mal de films, notamment quatre d'entre eux qui sont passés par les Rencontres des cinémas d'Europe. J'entends Kika, Arco, Dossier 137, Franzka, et on parlera aussi de La Voix de Hind Rajab.
Oui, il faut en parler pour dire ce que c'est.
C'est parti. Ah ben non.
J'adore cette chanson.
J'ai beau me dire...
David.
Kika.
Tu fais quoi?
Je suis assistante sociale.
J'ai rendez-vous avec madame.
Ça change.
Allez, bonne journée, je t'aime.
Rien ne t'efface.
J'ai juste un tout petit peu enceinte.
Mais comment ça, tout si
bien.
Tu vas faire quoi, là, avec l'appart et tout?
On bouge d'ici la fin du mois.
Et quelqu'un à qui tu peux emprunter de l'argent?
Comment vous payez votre loyer?
Je vends mes culottes sales.
Ok, ça je vais pas le mettre dans le dossier.
Vous me traitez de gros dégueulasse et je vous donne 50 euros de plus.
Vous êtes un gros dégueulasse.
Pourquoi vous me dites ça?
Attendez, c'est vous qui m'avez demandé.
Oui, mais argumentez.
Ah.
Kika, oui. De Alex Poukine avec Manon Clavel, extraordinaire actrice et même alter ego peut-être de Alex Poukine. Un film qui n'est jamais là où on l'attend. Très bonne surprise en tout cas pour moi. Cathy, est-ce que tu veux commencer? Puisque
alors,
c'est toi qui l'as choisi.
Oui. Kika, découvert la semaine de la critique cette année à Cannes. Je suis sortie du film en pleurs après avoir eu plein de phases et d'émotions différentes. Il y a beaucoup d'humour, on l'entend aussi dans la bande-annonce. C'est vrai que c'est le premier film, le premier long métrage de fiction d'Alex Poukine, qui est plutôt une documentariste et une documentariste plutôt douée aussi sur que la question du deuil interroge, enfin toujours, on le retrouve encore une fois dans ce film-là, dans Kika. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est justement le changement de genre qu'elle ose. C'est vrai qu'on part d'une sorte de comédie sociale à une comédie romantique, et puis après on tombe dans le drame, et on découvre aussi un univers dans lequel Kika, donc Kika, elle est assistante sociale, on l'entend aussi dans la bande-annonce, elle vit depuis des années avec quelqu'un, elle a une fille avec, tout a l'air à peu près normal, et puis elle va rencontrer David, ça va être le coup de foudre, et malheureusement il va ce compagnon va mourir, et c'est comment tout le film après repose sur le comment elle va vivre ce deuil et comment elle va être en capacité d'y survivre quelque part aussi.
Mais j'ai l'impression sans note d'intention. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis rentrée dans ce film, je ne savais rien du film. Et donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à un film sur le deuil. Sinon, j'y serais pas allée. J'avais pas envie. Mais, et finalement, tu as raison, ça parle que de ça, on s'en rend compte.
Ah oui, ça parle de ça. Et mais... tout le long du film, moi, je me disais, mais bon, voilà, elle est très forte, elle ne pleure pas. Et très bizarrement, on se dit, mais comment tout ça va finir? Enfin, comment elle va se relever de tout ça? Et je trouve que c'est très, très intelligemment mené. Y a aussi le sujet de fond dont on parle pas assez, où il y a des gens qui se retrouvent dans des situations, et des femmes en particulier, qui se trouvent dans des situations tellement extrêmes économiquement qu'elles pensent au travail du sexe, enfin à devenir pour avoir de l'argent facile. Bon, elle a certaines valeurs, certaines règles qu'elle va se donner aussi, jusqu'où elle est en capacité d'aller. Et comme le personnage, si on n'est pas du tout... au courant de comment, enfin, qu'est-ce qui se pratique, comment et avec qui, ça donne une découverte du milieu assez, assez incroyable, avec des fois des scènes, on se dit waouh, ah ouais, quand même. Mais pour autant, ça reste quand même plutôt léger, ça reste puissant. Enfin, c'est léger et puissant, c'est complètement... c'est assez, assez bizarre, mais... Et puis, le film est porté, donc, comme tu l'as dit, par Manon Clavel, qui est absolument incroyable et qu'on a eu beaucoup de chance d'accueillir, parce qu'elle a une énergie folle. Elle porte vraiment le personnage jusqu'à la fin, et cette fin, pour moi, elle est bouleversante. Je ne sais pas si on l'attend et en même temps, on la redoute, et en même temps, on ne sait pas comment elle va nous être amenée, et je trouve que c'est extraordinaire la façon dont c'est fait. Et ensuite, elle peut passer à autre chose, quoi. Elle peut vivre cette Kika. Et voilà, c'est vraiment un film moi qui m'a beaucoup parlé et qui m'émeut autant qu'il m'amuse.
Bon, je ne peux qu'insister sur ce que tu as dit, Cathy. D'abord, effectivement, la remarquable performance de Manon Clavel, qui en était à son premier film, et qui est de fiction en tout cas, et qui est sur tous les plans. C'est un travail colossal et elle est remarquable. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'humour. C'est un film belge, il n'y a pas de doute. Les Belges se prennent beaucoup moins au sérieux que nous. Je ne pense pas qu'un Français aurait pu rendre ça, un sujet pareil, aussi drôle. Je pense qu'aussi, ce qui est bien, c'est que ça nous montre des gens qui ont une sexualité qu'on pourrait qualifier de déviante, entre guillemets, mais ils ne sont pas jugés. Il n'y a pas de jugement moral dans ce film. Ça, c'est très bien. Alors, effectivement, tu l'as dit, tout le monde l'a dit, c'est un film sur le deuil. Mais c'est la façon dont ce deuil est vécu qui m'a intéressé. On sent qu'elle a besoin d'une certaine... Enfin, elle ne sait pas, mais il s'avère qu'elle a besoin d'une certaine violence pour sortir de ce deuil. Il y a une scène assez exceptionnelle à la fin.
Pas à la fin.
Mais bon, il y a une scène, en tout cas, oui, je ne dirais pas quoi, mais qui montre qu'elle a besoin d'une certaine forme de violence pour sortir de là.
D'ailleurs, voilà. D'autres personnages aussi, enfin, ceux qui passent
par le BDSM.
Le BDSM, donc, exactement. Il y a aussi cette façon de vouloir combattre quelque chose.
Par une violence plus puissante qu'on décide de se donner à soi-même. Et c'est pour ça que quand tu parles de déviante, mais je ne sais pas.
Voilà, je dis déviante parce que. Original, je veux dire, pas standard. Quoi.
Il a dit qu'on pourrait qualifier de
déviant. Pas standard, c'est ce que je voulais dire. Oui, il y a autre chose que je trouve très bien, c'est que il y a une forme de suspense dans ce film, dans la mesure où on s'identifie à ce personnage et on se dit, est-ce qu'elle va sombrer dans la prostitution pure et simple? Et ça, c'est très intéressant tout le long du film. Voilà. Un film qui est tout à fait intéressant.
Et on sent aussi la patte de la documentariste derrière, qui arrive vraiment à bien cerner des milieux, des mondes, des univers. Enfin, je trouvais ça... Donc Kika d'Alex Poukine, qui est à voir à Aubenas et à Ruyons uniquement cette semaine. Donc allez le voir maintenant. On passe à la suite.
Je commençais sérieusement à m'inquiéter.
Qu'est-ce que ça peut être?
Aucune idée.
À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Iris. Arco. Mais tu viens d'où?
un petit débat interne qui n'a rien à voir avec Arco, mais non. Tout avec la sexualité déviante, selon Olivier. Alors, Arco de Hugo Bienvenue, qui n'a rien à voir avec la courte précédente, avec les voix qu'on a pu entendre, peut-être, de Swan Harlow, je pense. Arco, Olivier.
Oui, Swan Harlow, c'est la voix du père d'Iris. Alors, Arco vit en 2932. Donc, c'est pas d'hier, c'est de demain, mais après-demain plutôt. Et puis, Iris vit en 2075. Alors, 2075, le 2075 d'Hugo Bienvenue, c'est notre époque, déjà, mais avec les traits plus appuyés. Voilà. Donc, on a affaire à un film d'animation, dessin, 2D, de facture assez classique, si bien que finalement, pour le spectateur, c'est plutôt reposant par rapport à des déluges d'effets techniques, effectivement, 3D, images de synthèse et autres. On a donc un visuel plutôt confortable, plutôt habituel, et qui permet donc ce repos relatif du spectateur comme spectateur, lui permet de poser une belle histoire assez complexe, puisqu'il s'agit, on l'aura compris avec mes références chronologiques, il s'agit d'une histoire de voyage dans le temps. Arco, qui vit en 2932, il a un rêve d'enfant, habituel d'ailleurs, hein, il veut voir les dinosaures. Or, les gens de 1932, ils détiennent des capes multicolores, format arc-en-ciel, qui leur permettent de voyager dans le temps. Mais on a le droit de voyager dans le temps seulement à partir de 16 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, Arco...
En conduite accompagnée
non, justement, c'est soit on assume complètement, soit ou pas. Et donc, la sœur d'Arco, qui est plus âgée que lui, elle a une cape, mais lui n'en a pas, et donc il la subtilise pour aller voir les dinosaures. Mais, accident de parcours, au lieu d'atterrir il y a 60 millions d'années chez les dinosaures, il atterrit donc en 2075 chez Iris. Alors évidemment, il y a une espèce de malentendu, il y a toute une partie du film qui est consacrée à la restauration de la ligne chronologique et puis de l'occupation de l'espace. Et c'est un film qui, donc je répète, en dessin 2D, hein, c'est un film qui joue subtilement sur les échanges d'espace qui doivent correspondre à des échanges de temporalité. Il y a quelque chose qui est assez symptomatique, entre guillemets, de ce point de vue-là. Dans le collège d'Iris, pour les cours d'histoire, ils ont des salles. Quand on les traverse, on traverse des époques parce qu'il y a des animations qui sont réalisées qui font que les élèves qui étudient l'histoire peuvent traverser comme ça, virtuellement naturellement, hein, pas comme avec la cape d'Arco, hein, virtuellement, peuvent traverser les différentes époques. Donc on a un jeu comme ça où les espaces jouent le rôle de temporalité différente. C'est résolu à la fin d'une manière qui est, d'un point de vue métaphysique, absolument passionnante. Moi, j'ai beaucoup de mal en général avec les films qui traitent de voyage dans le temps, parce que mon intelligence, ma rationalité, elle est toujours choquée, elle bute. Quoi. Mais là, il y a une résolution finale qui est passionnante. Et je crois que le propos du film, il est de montrer qu'il y a une part de l'humanité. Et cette part, bah, je crois que c'est le cœur, tout simplement, qui échappe à l'espace et au temps. Nous sommes porteurs d'une...
Intemporel. Ouais. Le cœur intemporel.
Ouais. Le cœur est intemporel, les vœux sont intemporels. Ce que l'on a souhaité peut nous revenir du passé, peut intervenir du futur, peut se réaliser au présent. Et je crois que c'est un petit peu la philosophie du film, hein, le vœu, les vœux du cœur, les souhaits profonds de notre amour, parce que finalement il s'agit de ça, il s'agit de vœux pieux, pas de vœux de destruction massive ou de, hein, on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine, là on est dans la, là, les vœux du cœur sont intemporels. Et c'est pas pour ça qu'ils sont nécessairement satisfaits. Et là, il y a un autre aspect dans ce film, Arco, qu'on trouve dans Le Secret des Mésanges, qu'on trouve dans d'autres films dits jeunes publics en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme, mais il n'y a pas non plus d'angélisme. Mmh.
Et ça nous change effectivement des daubes blockbusters américains où non seulement vous avez un manichéisme, mais où à chaque fois il y a une espèce de bien absolu qui triomphe. Non, là on est à hauteur d'homme, véritablement. Et donc ça fait de ce film une sorte d'aventure intellectuelle et spirituelle, et puis surtout évidemment esthétique, parce que les différentes périodes sont rendues, alors pas dans des esthétiques différentes toutes, mais ce dont les humains disposent aux différentes périodes nous montre donc qu'on change de période, et de manière assez subtile, et en même temps tu parlais de léger et puissant tout à fait, c'est ça, c'est-à-dire que il y a pas de grands artifices techniques ou esthétiques, mais on sent qu'effectivement on change d'époque et d'esprit. C'est vraiment un film à voir avec nos enfants.
C'est de l'animation française.
Et c'est de l'animation française, oui.
Arco de Hugo, bienvenue, c'est à voir à Aubenas et prochainement ce sera au Vence. Bah, tu m'as emballé, moi, j'ai bien envie d'aller le voir. On poursuit avec un autre film français, mais complètement différent.
Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers.
C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball.
Les flics, là, qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait.
Mais tu baisses d'un ton, là.
Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien.
On nous a dit que la République était en danger.
On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents.
Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue.
Le gouvernement était en panique.
Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez?
Mais sur les images, on voit pas bien.
Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien.
Aïe, 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 oui, l'IGPN. Dossier 137 de Dominique Moll avec Léa Drucker qu'on a entendu là à l'instant. Un film qui revient sur les violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, donc Dominique Moll, après nous avoir impressionnés dans La Nuit du 12, quand je suis allée voir Dossier 137, j'en attendais beaucoup, parce que c'est vrai que c'est un réalisateur que l'on suit depuis longtemps, avec Harry, un ami qui vous veut du bien, il avait quand même posé un certain niveau de polar, enfin de thriller, enfin d'ambiance, hein. C'est vraiment quelqu'un qui sait très bien ambiancer ses films. C'est très moche ce que je dis, mais bon. Et donc,
parce que là, j'ai l'impression d'entendre du zouk, mais ça n'a rien à voir.
Bah, non, oui,
c'est
ça.
C'est pas tout à fait ça.
C'est pas tout à fait ça. Non, mais voilà, c'est un grand réalisateur, et c'est vrai que pour moi, une espèce de passage à vide dans certaines propositions cinématographiques qu'il avait faites, vraiment avec La Nuit du 12, il avait su tout de suite embarquer les spectateuristes dans cette enquête où d'entrée on vous disait que de toute façon voilà l'histoire elle n'aboutirait pas, c'était tout de suite posé et on suivait cet enquêteur, enfin ce policier dans toute sa en psychologie, enfin toute sa psychologie autour d'une enquête qui le perturbait dans ses jours, dans ses nuits. Enfin bon, bref, on était assez. Je trouve que c'était vraiment impressionnant. Et là, sur Dossier 137, on est à nouveau dans une enquête, mais avec un traitement totalement différent, où là, on est sur la police des polices, portée par Léa Drucker en inspectrice. Je ne sais pas exactement quel est son statut, je ne me souviens pas, mais en tout cas, elle aussi,
elle est commandant,
ouais. Et donc là, on plonge dans un univers particulièrement masculin, avec tout ce que ça peut comporter aussi de travers pour tout. Hein, c'est-à-dire, c'est une femme qui dirige, c'est elle qui a quand même le pouvoir. Donc, ils en jouent aussi. Enfin bon, c'est pas que ça, le film. Mais enfin, il y a un petit peu tous ces aspects-là qui sont racontés. Et c'est comment, comment elle va résoudre, qu'est-ce qui s'est véritablement passé, et c'est comment. Mais je pense qu'Olivier va beaucoup mieux en parler que moi. En tout cas, c'est un film. Pour être allé à la fin de certaines séances où, auxquelles participaient auxquelles participaient les lycéens, ils ont été très 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 impressionnés par le sujet, par le film, par le traitement aussi, qui peut être vraiment révoltant, quoi, évidemment, parce que on va dans des mensonges avérés, des gens qui pourtant ne devraient pas mentir sur ce qu'ils ont été ou pas en capacité de faire. Et tout ça, ça remue. Hein.
Ça remue
beaucoup.
Est-ce que c'est un film à charge contre la police des polices ?
Non.
C'est obligé. Pas à charge pour la police des polices.
Non,
mais
sûrement pas.
Au contraire.
C'est important de le dire.
Enquête.
Mais à charge.
Mais bon, la police.
Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne peuvent pas être jugés partis. Mais le film, ici, au contraire.
Mais là, on essaie d'avoir une certaine. Enfin, comme on le voyait à travers la nuit du 12, c'est-à-dire avoir la vérité. Enfin, en quête de vérité. C'est quoi la vérité, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé, vraiment ?
Oui, je pense qu'effectivement, Dominique Moll, on ne peut pas s'empêcher, en voyant Dossier 137, de penser au moins à deux films précédents que Cathy, d'ailleurs, a cité, mais je pense que c'est presque obligé, à Harry, un ami qui vous fait du bien, et puis La nuit du 12. Dominique Moll est quelqu'un de très subtil. Donc, ouais. tu peux pas parler de film à charge d'aucune façon. Et comme le dit Cathy, c'est vraiment Dominique Moll, d'ailleurs, hein, c'est quelqu'un qui a une certaine obsession de la vérité. Ouais. Je pense qu'on peut dire ça. Il y a un goût, un vrai goût de la vérité. De ce point de vue-là, il y a dans les trois films qu'on a cités, donc Harry, un ami qui vous veut du bien, La nuit du 12 et puis Dossier 137, il y a une sorte de dialectique de l'espace et de l'intimité. Un ami qui vous veut du bien, c'est Harry qui débarque d'on ne sait pas où, qui trouve qu'un ancien pote à lui, Michel, a des talents littéraires non exploités. Donc il intervient dans la petite famille de Michel et Claire, ils ont trois filles, ils vont dans une maison qu'ils sont en train de restaurer, et Harry décide de faire le ménage autour de Michel, mais le ménage vraiment, pour qu'il puisse se consacrer à la littérature.
Ouais, on va se resserrer sur Dossier 137, parce qu'il y a encore d'autres films.
La nuit du 12, c'est pareil, c'est une enquête de la BRI parisienne, mais les flics parisiens, ils ont le droit de se déporter pour enquêter sur tel ou tel fait ici, l'assassinat, féminicide de Clara. Et ils le font. Donc on va avoir le Grenoble, et puis on va avoir les bureaux de la BRI. Et là, de la même manière, on va avoir le maintien de l'ordre à Paris, dans les grandes avenues, et puis dans les petites ruelles. Et puis on va avoir Léa Drucker dans son bureau, et puis au-delà de son bureau, chez elle, dans une famille non recomposée, et puis chez ses parents, dans le Grand Est. Et donc on va avoir cette même dialectique entre le grand espace, la ville de Paris, où il y a les émeutes, où il y a des essais de maintien de l'ordre, et puis d'un côté c'est un des grands espaces, l'autre grand espace c'est le Grand Est avec Saint-Dizier, et puis le petit espace, c'est les bureaux d'IGPN, et puis c'est le foyer de Léa Drucker. Et je trouve que Dominique Moll, il arrive bien, comme un battement de cœur, comme ça, il arrive bien à nous faire passer du large au focus. Et le plus large, ça va être les plans pris par des dizaines de caméras dans Paris pour surveiller cette troupe de la BRI, ces cinq hommes de la BRI qui vont faire des saloperies dans les petites ruelles. Ça, c'est... Et puis, il y a et Léa Drucker, comme commandant de cette section de l'IGPN, il va falloir qu'elle traverse tout ça, à travers ce grand espace, il va falloir qu'elle trouve, par ses propres moyens, qui sont des tout petits moyens, elle va filer contre le droit, d'ailleurs, hein, elle va filer une témoin, elle va se mettre à la recherche de la vérité intimement par rapport. Et alors on a le même idée, l'IGPN, c'est le grand espace qui est censé enserrer l'abbé Eric qui fait du maintien de l'ordre, alors que c'est pas sa mission, hein. Je vais quand même noter ça. Et c'est pareil, on a cet espace englobant et puis le petit espace étroit de ces mecs de la BRI qui, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce qu'ils sont un peu masculinistes, parce qu'ils sont un peu effectivement baroudeurs, barbouzes, etc., vont faire des trucs que aucun policier digne de ce nom ne pourrait même envisager de faire. Et je crois qu'effectivement, pour reprendre la question de René, Dominique Moll a suffisamment de subtilité pour nous montrer que la police, elle a une mission de maintien de l'ordre qui est difficile, dans laquelle il peut y avoir plus que des bavures, mais que la sanction des bavures et la mission de la police sont pas antithétiques. Au contraire, le propos de Léa Drucker, le commandant de police de l'IGPN, c'est de dire « plus on fera le ménage chez nous, plus on sera efficace hors de nous ».
Dossier 137 de Dominique Moll, qui est à voir à Aubenas, et la semaine prochaine il sera également à Ruyons, au Vence et à Vals-les-Bains. On continue.
Franz.
Bon.
Franz. Oui. Franz K. Franz Kafka, d'Agnieszka Holland. Tu voulais...
Oui, alors j'ai beaucoup aimé ce film. On a beaucoup travaillé ensemble, d'ailleurs, dessus, puisqu'on a eu le plaisir d'interviewer la metteuse en scène. Alors, ce film, d'abord, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas un biopic. Dans un biopic classique, on part en gros de la naissance et on va jusqu'à la mort. Là, ce n'est pas du tout traité de façon hiérarchique. En fait, c'est construit sur une alternance de trois types de scènes. Il y a les scènes réalistes, qui sont indispensables, bien sûr, mais il y a les scènes aussi oniriques et des scènes documentaires où certains personnages du film s'adressent directement au public, aux spectateurs. Voilà, alors ce type de montage donne d'abord du rythme au film, une sorte de... Mais surtout, il nous donne accès à la vie intérieure de Kafka, ce que je veux dire, ou plus précisément à la façon dont son imaginaire créatif se nourrit. Le personnage Kafka qu'on voit dans le film parle peu, il observe, il réclame le silence. Alors je suis tombé sur une phrase d'un poète français, René Daumal, qui dit « parler pour ne pas voir », ce qui est très profond à mon avis. Et bien justement, le Kafka de ce film, c'est l'inverse, il se tait pour tout voir et pour tout absorber. C'est un film sur la création littéraire, sur voilà comment il nourrit son imaginaire. Et c'est ce qui est le plus important dans ce film, c'est ce qui en fait un film très intéressant. En plus de ça, évidemment, la performance de cet acteur qui c'est son premier rôle, là aussi, est tout à fait remarquable. Il est très convaincant.
Edenweiss.
Voilà, donc c'est un film que j'ai énormément aimé. La critique n'a pas toujours été tendre avec, je trouve que c'est très injuste.
Oui, oui. Et d'ailleurs, moi, ça me pose question sur, sur les critiques et aussi, comme beaucoup, en tout cas, moi, je le pratique, je vais sur Allociné et voir, et en fait, une moyenne d'étoiles ne veut strictement rien dire. Parce que, justement, c'est par rapport à une audace cinématographique telle que celle-là, je pense que vraiment elle a plus de 70 ans, Agnieszka.
77.
Et pourtant, elle se renouvelle, elle invente des formes, elle teste, d'ailleurs des formes qui, je trouve, sont vraiment, comme tu l'as dit, très, très justes et qui apportent beaucoup à ce film. Mmh. Et voilà. Et à partir du moment où il y a des audaces, ça peut clivé. Et donc.
Ça reste un film exigeant, hein. Qui demande une attention aussi, parce qu'il est. Il a un certain rythme, on fait des allers-retours dans le passé. Il y a
et qui questionne, voilà.
Ça
voilà.
Questionne, oui.
Oui, oui. Il y a un détail intéressant. Il y a une seule scène de l'œuvre de Kafka qui est représentée, c'est la scène tirée d'une nouvelle, d'une cinquantaine de pages, qui s'appelle La colonie pénitentiaire. C'est une scène d'une violence terrible qui annonce évidemment le nazisme et tout ça. Et je trouve que c'est à mettre en rapport avec les conflits permanents que le film montre entre Kafka et son père. Et ça montre à quel point ce qu'il vit quotidiennement, l'a bouleversé intérieurement et a débouché sur une écriture absolument inimaginable pour quelqu'un qui menait une vie dans une famille bourgeoise. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Extraordinaire.
Allez voir Franz K. de Agnieszka Holland. C'est à Aubenas uniquement cette semaine, donc dépêchez-vous si vous voulez aller le voir. Et puis vous pouvez aussi réécouter sur la page de L'Onde Curieuse sur notre site internet l'interview donc de Agnieszka Holland. On termine avec un autre film nécessaire.
الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل انت شو اسم العيله شو اسمك الكامل
هلا انت ومين كنتوا مع بعض
الو
مسرنا تفاصيل طواقم
La voix de Hind Rajab, qu'on a entendue d'ailleurs, c'est la voix, sa propre voix. Voilà, le film de Kauter Ben Ania qui avait fait Les Filles d'Olpha, d'ailleurs, où elle mêlait fiction et documentaire déjà. Olivier.
Oui, on avait beaucoup de films à évoquer, mais je tenais à évoquer celui-là, La voix d'Hind Rajab, parce que c'est un film témoignage. Important sur certains aspects de la guerre à Gaza, à savoir que ça rappelle que la guerre est une horreur absolue et que des hommes, une fois qu'ils sont entrés Rangers et armés jusqu'aux dents, et éventuellement dans des tanks, ça pète complètement les plombs, quoi. C'est-à-dire que tout, absolument tout, le plus invraisemblable, le plus horrible, peut se produire. Et là, qu'est-ce qui se produit ? C'est que l'armée israélienne dans Gaza, au nord, on ne sait pas pourquoi, s'en prend à une auto, à une voiture, dans laquelle il y a 5 personnes, la famille d'Hind Rajab. Ils tirent, on relèvera 355 impacts de balles quand même sur la voiture. C'est du champ de tir, quoi. Et alors, la petite fille qui a 6 ans et qui survit au milieu des cadavres de sa famille, elle reste dans la voiture pour essayer de sauver sa vie. Évidemment, c'est ce qu'on lui conseille parce qu'elle est en lien avec le Croissant Rouge qui organise, le voyage d'une ambulance. Ça prend 8 minutes. Normalement, il faut 8 minutes pour une ambulance pour aller de là où l'ambulance est à l'endroit où se trouve la petite fille dans la voiture. Mais il faut déterminer un itinéraire sécurisé pour pas que l'ambulance se fasse détruire à son tour par une quelconque arme. Alors, le film dure 1h30, et je réfléchissais en pensant ce que j'allais dire. En gros, le film il dure un dixième du temps que dure l'événement. L'événement dure une dizaine d'heures à peu près, quoi, et un peu plus, peut-être, voilà, et le film un peu plus d'une heure. Et c'est tout cet effort, d'une part, de conserver le lien avec la petite fille dans la voiture et d'organiser le lien pour les ambulances, sachant que si c'est pas bien organisé, l'ambulance a toutes les chances de subir le même sort que la voiture de la famille d'Hind. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est sidérant, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai pas de grand chose d'autre. D'un point de vue cinématographique, c'est vachement bien fait. Il y a des idées de montage et de prise de vue qui sont très bien. C'est un vrai film. C'est un bon film. Mais c'était plus pour dire d'aller voir le témoignage que ce film constitue, plus que pour continuer à parler de cinéma que je voulais en parler. Voilà.
La voix de Hind Rajab qui est à voir à Aubenas, comment faire la transition, en plus on n'a plus que une minute, viennent de se terminer les rencontres des cinémas d'Europe. Ouais. Non mais je vais pas te... compliqué.
Bah, heureusement qu'il y a aussi des moments et des bons moments, on va dire, où, dans lesquels tout public et toute personne puisse se réunir, partager aussi bien des œuvres que des concerts ou autres, en tout cas toute forme artistique. Et on voit bien que la voix du cinéma, c'est une bonne voie aussi pour partager tout ça. Donc, ce qu'on dira, c'est que, comme on a fini les rencontres en disant « ouvrez vos chakras et allez au cinéma », il faut continuer. Et le cinéma, c'est fait pour dénoncer, c'est fait pour questionner, c'est fait pour divertir, bien sûr, aussi. Et dénoncer surtout, je crois, c'est ça qui est important. En tout cas, de rendre... Enfin, essayer, on parlait d'une forme de vérité tout à l'heure. Mmh. En tout cas, quand on peut donner une forme de vérité et de témoignage et d'honneur à, tout, voilà, à toute situation qui a pu être vécue ou qui est vécue ou qui sera vécue dans le monde, je trouve ça déjà très fort.
Ben merci beaucoup. Ouais. Merci Cathy, merci René, merci Olivier d'avoir partagé du cinéma avec nous. Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain. Ciao.
Ciao, ciao.